veux plus, on regarde plus la télé. On prie davantage. C'est pas certain que ce soit vrai. C'est bien quand même. Et puis, vous voyez ici, on vient de lire l'évangile de l'enfant prodigue. Le père voit son fils arriver. Donc l'enfant prodigue, c'est l'humanité, c'est nous. Quand l'enfant prodigue se lève et retourne vers son père, c'est Jésus. Il n'y a que Jésus qui se lève, il ressuscite, et il va vers son Père. Et donc le Père voit son Fils, et il recueille son Fils. Alors c'est le veau gras et c'est les noces. Mais le Fils est né, c'est le démon, c'est l'ange. Mais l'ange n'appartient pas au temps du péché ou au temps de la grâce. Il dépasse tous les temps, il traverse tout ça. Donc l'histoire du démon, il enveloppe tout ça. Le démon dit non parce qu'il ne supporte pas le retour du Fils, le retour du Christ, la résurrection à partir de la mort. La mort et la résurrection, pour le démon, c'est insupportable. Le démon est jaloux. Le Fils aîné est jaloux. Vous voyez, les trois péchés du démon, c'est l'avarice, l'orgueil et l'envie. Dans les sept péchés capitaux, le démon n'est pas paresseux, il s'en va au travail. Il n'est pas luxurieux, il n'a pas de corps. Différenciation sexuelle, il ne sait pas ce que c'est. Voilà, ouais. Il n'est pas gourmand, parce que pour ça, il faut avoir un estomac et des bonnes papilles gustatives. Ouais, c'est ça. Il n'est pas glouton. Ouais. Ah, mais l'avarice, l'orgueil, cette espèce de ramener un petit peu à soi, ça oui, bien sûr, il faudrait ramener Dieu à lui. C'est pas amener le monde entier à Dieu, mais amener Dieu à lui. Ouais. Jésus lui ramène le monde entier au Père, c'est ça qui est beau. Et c'est ça l'enfant prodigue. Bon, l'Apocalypse, c'est le livre qui montre la rage du démon, son orgueil, son envie, sa jalousie. Les trois péchés capitaux que nous avons en partage avec le diable. Tout est merveilleux, je veux dire, tout est extraordinaire, tout est splendide, mais qu'est-ce que ça fait du bruit, cet orgueil, cette avarice, cette envie, fait beaucoup de bruit. Et l'Apocalypse, c'est un livre merveilleux pour ça, parce que il montre à quel point l'orgueil est vide. C'est le domaine du vide. C'est le domaine du... L'avarice, c'est vide. L'envie, c'est vide. Et pourtant, ça fait beaucoup de bruit. Ça prend beaucoup de place. C'est vrai. Ah, attends, c'est bien cette parabole de l'enfant prodigue, parce que... on comprend bien que quand on retourne vers le Père, c'est Jésus à travers nous qui retourne vers le Père. Quand on se confesse, c'est toute l'humanité. C'est pas moi avec mes petites fautes. C'est moi avec mes petites fautes. Mais du coup, j'en profite. Je suis du coup dans une espèce d'extraordinaire nacelle. Parce que comme je vais à la confession, du coup, je suis dans le cœur de Jésus. Et c'est le cœur de Jésus qui va vers le Père, qui demande pardon pour tous les péchés du monde. Voilà ce que veut dire la parabole de l'enfant prodigue. C'est que les sacrements ne sont pas pour moi. Il n'y a pas d'avarice, c'est pas Dieu pour moi. C'est je ramène le monde entier en Dieu. Oui, la différence. L'Apocalypse montre ce côté un petit peu universel de l'amour de Dieu. Ce côté catholique, si vous préférez, ce côté éternel aussi. Le poids d'éternité du Seigneur est tellement grand que quand on rentre dans ce poids d'éternité et quand on descend, il y a un bruit incroyable en dessous. Le bruit du démon, quoi. Voilà. Et on est arrivé justement, je dis ça parce qu'on est arrivé dans ces passages, des sept signes. Parce qu'on a vu donc les sept les sept manifestations de la maternité glorieuse de Marie dans Jésus, on a vu les sept églises, on a vu les sept sceaux de la prédestination glorieuse, on a vu les sept trompettes, les sept tonnerres, et on rentrait dans les sept signes là. Oui, le signe de l'infaillibilité, le livre dans la droite, le tout petit livre Bibliothotes. Bibliothotes, le tout petit livre. C'est trois livres, hein, vous ne le saviez pas, dans l'Apocalypse, dans la main droite, il y a un moment un livre, un moment un petit livre, et puis un tout petit livre. Un tout petit livre, c'est le signe. Saint, l'évangile de Saint Jean, c'est le signe. Il doit être redonné à un moment donné. Vous voyez, chapitre 10 et 11 de l'Apocalypse, il est dans la main droite de celui qui est sur le trône du Père. Un petit livre. Pour relire. Le petit livre de Saint Jean, c'est pour ça qu'il y a une si grande distance entre l'évangile de Saint Jean, l'Apocalypse, et puis tous les autres évangiles, les épîtres. Hein, c'est vrai, il y a une continuité incroyable, incroyable, incroyable. De la Genèse jusqu'aux trois évangiles, et jusqu'aux épîtres de Saint Paul. Puis un arrêt, il faut attendre le siècle d'après pour avoir l'Apocalypse, l'évangile de Saint Jean. C'est significatif, et c'est dans l'Apocalypse qu'on apprend pourquoi. Parce que, bien sûr, que le quatrième évangile, bien sûr que le quatrième évangile fait partie de l'ensemble de la Biblios, c'est-à-dire du petit livre. Bien sûr qu'il fait partie des apôtres comme les autres. Mais il doit être redonné une seconde fois, son évangile, le même. C'est toute petite partie de la Bible, c'est toute petite partie d'une seconde fois. L'Apocalypse et l'Évangile de Saint Jean doivent être redonnés une seconde fois au moment où il y a ces sept trompettes. Hein, la fameuse sixième trompette qu'on a vue, au moment de la venue, vous savez, de ces chevaux extraordinaires, une gueule de lion, qui sortent de la fumée, du feu, du soufre. Hyacinthe, avec des cuirasses de hyacinthe, de feu et de lumière purifiante, de soufre. Le règne du Sacré-Cœur. C'est une grâce sainte, victorieuse. Avec la fumée bleue, c'est extraordinaire. La couleur hyacinthe, c'est c'est extraordinaire, n'empêche ça. C'est ce qu'on avait vu, c'est extraordinaire ça. De voir ces cavaliers, cette grâce qui va être donnée, royale, sainteté au sommet, plénitude. Parcourir toute la terre et qui vont ouvrir justement la possibilité de voir qu'est-ce qu'il y a de manger ce tout petit livre et qui va être redonné une nouvelle fois à la terre pour évangéliser tous les peuples, toutes les nations. Aujourd'hui, des chrétiens, des catholiques, il n'y en a pas tellement. Si on est 6 milliards d'êtres humains, vous voyez, disons vivants, ayant un état civil, n'est-ce pas ? Parce que si on comptait tous ceux qui ont moins de 100 ans, on n'est pas 6 milliards, on est 28 milliards. Ceux qui ont moins de 80 ans aujourd'hui sur la Terre, on est 28 milliards. Vous saviez pas ça? Bon, je suis sûr que vous avez... Si, la plupart d'entre vous, vous savez qu'on est plus que 6 milliards qui ont moins de 80 ans. Voilà. On est très nombreux. Combien sont catholiques là-dedans? 1 milliard et 200 millions, c'est tout. 1 milliard 200 millions, ça fait pas beaucoup. Donc on peut pas dire que l'évangile a été proclamé à tous les peuples, à toutes les multitudes, à toutes les nations. À un moment donné, la tonitruante présence de Dieu se manifeste dans l'ange au sommet à l'annonce des trois grands aïe, 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 les trois grands malheurs, des malheurs pour le démon, hein. Malheur pour l'orgueil du démon, malheur pour l'avarice du démon, malheur à l'envie du démon, les trois malheurs, malheur, malheur, et malheur à ceux qui aiment le démon, malheur à donc ceux qui aiment les choses terrestres, parce que si tu veux savoir si tu aimes le démon, c'est très facile, il suffit de savoir si tout ton amour est dans les choses terrestres. Qu'est-ce que tu aimes le plus dans le monde? Moi, ce que j'aime le plus dans le monde, c'est Johnny Hallyday. extraterrestre. C'est une créature. Moi, ce que j'aime le plus au monde, c'est... Mais là où vraiment je le sens le mieux, c'est le film du soir. C'est terrestre. Oui. Moi, ce que j'aime le plus au monde, c'est ma femme. C'est une créature. Moi, ce que j'aime le plus au monde, c'est mes enfants. C'est des créatures. Malheur aux habitants de la Terre, c'est à ceux qui, ce qu'ils aiment le plus au monde, c'est quelque chose de terrestre. Mais si j'aime ma femme parce que c'est le recueil du tabernacle du ciel sur la Terre, très bien, ça c'est autre chose. C'est le premier servi. À ce moment-là, j'aime ma femme vraiment, parce que si j'aime ma femme uniquement sur le plan terrestre, c'est que je l'aime pas, en fait. Vous voyez ? Et l'Apocalypse, c'est là pour nous montrer que l'amour, c'est le ciel. Si on aime quelqu'un sur la terre, c'est qu'on aime le ciel en lui. C'est le ciel qui est l'objet de l'amour. C'est pas la terre. C'est pas le côté terrestre des gens. C'est pas le côté terrestre de Jésus. C'est pas le côté humain de Jésus que nous aimons. C'est le côté divin de Jésus. Dans l'humain qui est Jésus que nous aimons. Tandis que le démon, lui, il n'aime pas ça. Il faut sauver l'homme. Ben oui, d'accord. Oui, il faut peut-être aussi sauver. Il faut sauver. Il faut pas sauver l'homme. L'homme n'a pas besoin d'être sauvé. L'homme. L'homme de la terre. Il ne faut pas sauver l'homme de la terre. Il faut sauver l'homme du ciel. Voilà. Ça oui. Il faut sauver l'homme du ciel. L'image, ressemblance de Dieu. Et ces trompettes ont commencé comme ça, oui, en disant ça, c'est l'image de Dieu. C'est redonné. Et du coup, un petit livre, le dernier livre, va être redonné à la terre. Ce qui correspond à ce que certains appellent l'avertissement, si vous voulez. Vous voyez ? Sixième trompette. On voit très bien, en lisant les trompettes, qu'il y a d'un seul coup quelque chose de nouveau. Un monde nouveau qui est destiné à rentrer dans le monde du temps. Il y a un temps nouveau qui doit rentrer dans le temps de la terre. Et ça, les trompettes, ça montre que la révélation est close depuis 2000 ans. Il n'y a pas d'autre révélation. Il n'y aura pas un cinquième évangile. Et puis, hop, le Seigneur, avec les 12 apôtres qui vont s'adresser aux mormons en disant, voilà le cinquième évangile. Parce que les mormons, c'est ça. Un cinquième évangile. Non, non, il n'y a pas de cinquième évangile. Voilà, l'ange Gabriel descend, voilà, une nouvelle Torah, un nouvel livre, le Coran. Non, il n'y a pas. La révélation est clôturée. Mais Saint Jean, lui, doit à nouveau donner ce tout petit livre sous une nouvelle lumière, le même, sous sa vraie lumière. Parce que les portes de sa compréhension, de sa clé de compréhension, c'est-à-dire l'amour céleste, marial, glorieux, de la Sainte Famille glorieuse, dans sa fécondité jusque dans le corps mystique vivant de Jésus vivant, va pouvoir être donné à la terre. À ce moment-là, c'est le corps mystique de Jésus est arrivé à son heure. Jésus est mort sur la croix tout seul, il y a 2000 ans. Mais la parabole de l'enfant prodigue, elle montre bien que Jésus, il n'est pas tout seul. L'enfant prodigue, c'est toute l'humanité qui, à partir de il était mort, il est revenu à la vie et il est guéri. C'est toute l'humanité qui passe par la mort et toute l'humanité qui va vers le Père et qui va aux noces de l'agneau. C'est toute l'humanité, c'est le corps mystique vivant de Jésus entier, vivant. Pas Jésus tout seul, Jésus entier, le corps mystique de Jésus. À un moment donné, le corps mystique vivant de Jésus vivant va connaître une grâce de plénitude. On voit un seul corps, un seul cœur, un seul troupeau, un seul pasteur, tout en étant chacun soi-même. Et cette grâce-là vient du fait que la créateur de Dieu dans la première cellule nous met en contact, j'allais dire métaphysique, surnaturel et incarné, les trois, vous voyez, l'anti-orgueil, l'anti-avarice et l'anti-envie, nous met en contact les uns avec les autres, corporellement. Et c'est ça la sixième et la septième trompette. On l'avait vu, n'est-ce pas? À partir de ce moment-là, les signes arrivent, l'infaillibilité. Voilà pourquoi le corps mystique de Jésus est infaillible, à cause de ça. À cause du corps mystique de la fin des temps. C'est pas à cause du pape Borgia que le pape est infaillible. C'est à cause du corps mystique de la fin qu'il y a l'infaillibilité. Ah, j'avais pas pensé à ça, tiens. J'avais pas pensé à ça, moi. Je suis pas infaillible, pape Borgia. Oui, mais la fin. L'alpha, l'Immaculée Conception, et l'oméga, la fin. Tu fais un fil entre les deux, et t'as le corps mystique de l'Église. C'est l'infaillibilité. C'est le premier signe, vous voyez. Le second signe, c'est les deux témoins. Et on était en train d'aborder les autres signes. La femme. Le troisième, le quatrième signe, le dragon. Comme on dit en catalan. Un énorme dragon. Je sais pas, la classe. Chaque 15 août, à Nefiac, je proclame le livre de l'Apocalypse. Un énorme dragon. Cette tête de 10 cornes, on en était là. Hein. Et je suis tout à fait d'accord que, l'autre jour j'avais commencé par une autre texte, je commençais aujourd'hui par un autre texte. Un autre texte aussi que j'ai fait là. C'est pas Saint Nilus cette fois-ci, c'est pas l'ermite Nilus d'il y a 1500 ans. C'est un autre, celui-là, c'est un autre ermite prophète aussi. Décidément, ces ermites sont merveilleux, hein. Et celui-là, c'était non pas il y a 1500 ans, mais il y a 2500 ans. Vous avez deviné, c'est le prophète Daniel. Le prophète Daniel, je lis d'abord ça parce que on est en train de lire 1290 jours, 42 mois, 3 ans et demi, un temps, un demi-temps, et puis on va avoir des bêtes avec des têtes de panthère, des pattes d'ours, qu'est-ce que c'est ce truc-là? Alors, le prophète Daniel, vous voyez, il y a 2500 ans. Voici que les quatre vents, venant des cieux, firent irruption sur l'immense mer. Alors le temps, la mer, c'est le temps. Le ciel, c'est le monde angélique. Et le souffle angélique est venu dans le temps. Et quatre grands animaux sortirent de la mer. Ça a fait sortir de la mer, du temps, quatre animaux énormes, différents les uns des autres. Le premier animal était semblable à un lion. Et il avait des ailes d'aigle. Et je regardais jusqu'au moment où ses ailes furent arrachées. Il fut enlevé de terre et mis debout sur ses pieds comme un homme. Oui, un très beau symbole de la résurrection, hein, la mort, la résurrection du Christ. Et un cœur d'homme lui fut donné. L'humanité intégrale lui fut donnée. C'est extraordinaire ça aussi, hein, pour l'association, hein, de la transverbération. Et voici un second animal était semblable à un ours. Et il se tenait sur un côté. Comme un chien quand il se trouve près d'un mur, vous voyez, sur un côté. Ça, on imagine très bien l'ours, vous voyez, qui sort de la mer. On a l'impression de le voir, c'est extraordinaire. Il avait trois côtes dans la gueule, entre les dents. Et on lui disait, lève-toi et mange beaucoup de chair humaine. Après cela, je regardais, voici un autre qui était semblable à un léopard. Et il avait sur le dos quatre ailes comme un oiseau. Et cet animal avait quatre têtes, bizarre, hein. T'as quand même un léopard avec quatre têtes, celui-là. Et la domination lui fut donnée. Et après cela, je regardais pendant mes visions de la nuit, et voici, il y avait un quatrième animal terrible, terrible, épouvantable et extraordinairement fort. Il avait de grandes dents en fer. Il mangeait, il brisait, il foulait aux pieds ce qui restait. Il était différent de tous les animaux précédents. Il avait 10 cornes. 10 cornes, 10 royaumes. Et je considérais les cornes, et voici une autre petite corne sortie du milieu des 10 cornes. Et 3 des premières cornes furent arrachées devant cette corne. Et voici, elle avait des yeux comme des yeux humains et une bouche qui parlait avec arrogance, des blasphèmes. Bizarre, qu'est-ce qu'il avait comme vision, prophète Daniel, hein? Je regardais pendant qu'on plaçait des trônes, et l'ancien des jours, celui qui est sur le trône, s'assit. Son vêtement était blanc comme la neige. Et les cheveux de sa tête étaient comme de la laine pure. Et son trône était comme des flammes de feu. Et les roues comme un feu ardent. Et un fleuve de feu coulait et sortait devant sa face, devant lui. 1000 milliers le servaient, 10 000 myriades se tenaient en sa présence. Et les juges s'assirent et les livres se furent ouverts. Il a eu, vous voyez aussi les 24 vieillards, celui-là. Hein? Et je regardais alors à cause des paroles arrogantes que prononçait le petit corps. Et tandis que je regardais, cet animal fut tué et son corps fut anéanti, livré au feu de l'enfer pour être brûlé. Et au moment où la petite corne, après l'avènement des 10 royaumes de la fin du monde, il y aura cette petite corne de l'Antichrist qui va se dresser. Il sera anéanti et plongé dans le feu éternel de l'enfer. Mais c'est sur une bête, vous voyez, à 4 têtes, que ces 10 cornes ont poussé. C'est extraordinaire. Un léopard. C'est extraordinaire. Mais je vous le lis avant, parce que sinon on ne peut pas comprendre ce qu'on va voir comme description des bêtes de l'Apocalypse. On ne pourra pas comprendre. On est bien obligé. L'Apocalypse ne démarre pas de rien du tout. Il n'y a pas que Saint Jean qui a été... Depuis Abraham, vous comprenez bien, on sait qu'il y a 3 bêtes. C'est pour ça que j'ai commencé par l'orgueil, l'avarice, l'esprit, et l'envie. Les autres animaux furent dépouillés de leur puissance, mais une prolongation de vie leur fut accordée jusqu'à un certain temps. Et, chute d'Antichrist en enfer, ça continue, ne vous inquiétez pas. Une chance est encore redonnée à la création. Je regardais pendant mes visions nocturnes, et voici sur les nuées des gloires du ciel, des cieux arriva quelqu'un semblable à un fils d'homme. Il s'avança vers l'ancien des jours, on le fit approcher de lui, on lui donna domination, gloire et règne. Et tous les peuples, les nations, les hommes de toutes langues le servirent, et sa domination est d'une domination éternelle qui ne passera pas, et son règne ne sera jamais détruit. Moi, Daniel, j'eus l'esprit troublé au-dedans de moi, et les visions de ma tête m'effrayèrent vraiment. Mais oui, ici il y avait des petits jeunes garçons là qui avaient 18 ans, et qui disaient, mais pourquoi est-ce que vous n'êtes pas avec votre chef scout, là, Hélène là, qui... Oh, ben maintenant elle a quand même 15 ans de plus que nous, et puis, il disait, c'est comme ça, parce que c'est comme ça que c'est eux qui m'en ont parlé, moi je leur ai dit bonjour. Et puis ils m'ont dit, elle est très obsédée par l'Apocalypse. C'est pas venu de moi, elle est obsédée par l'Apocalypse. Ah bon, obsédée par l'Apocalypse, et pourquoi? Et elle a peur. Il ne faut pas avoir peur de l'Apocalypse. Avoir peur de l'Apocalypse. C'est de la lumière, l'Apocalypse. C'est tout ce qui va être terrorisant qui va se disparaître. C'est tout ce qui terrorise qui disparaît. C'est ça l'Apocalypse. C'est un terroriste, ça. Il n'y a plus rien. C'est l'anéantissement de la terreur. Et les gens, ils sont effrayés par l'Apocalypse. Hein, cette petite scout là, elle est effrayée par l'Apocalypse. Attends, tu rigoles ou quoi? Ah Alors voilà, c'est pour dire, voyez, et bien même Daniel, les visions de ma tête m'effrayèrent de terreur. Et je m'approchais de l'un de ceux qui étaient là, je lui demandais ce qu'il y avait de vrai dans toutes ces choses. Ça ne peut pas être vrai, tout ça, quoi. Enfin, ces dragons, ces machins. Il me le dit et m'en donna l'explication. Ces quatre grands animaux, ce sont quatre rois qui s'élèveront de la terre. Mais les saints du Très-Haut recevront le royaume du Très-Haut. Et ils posséderont le royaume éternellement, d'éternité en éternité. Quatre, ça veut dire dans la création. Voyez, si vous cherchez un royaume à l'intérieur de quatre, c'est-à-dire vous cherchez un royaume dans ce qui est créé. Mais il y a ceux qui cherchent le royaume dans ce qui est non créé, dans ce qui est éternel. Et c'est ça le vrai royaume de la création. Ensuite, je désirais savoir la vérité sur le quatrième animal, qui était différent de tous les autres, extrêmement terrible, et qui avait des dents en fer et des ongles d'airain. Effectivement, ça devait être un peu effrayant, qui mangeait, brisait, foulait aux pieds ce qu'il restait. Et sur les 10 cornes qu'il avait sur la tête, et sur l'autre qui était sortie, et devant laquelle 3 étaient tombées. Sur cette corne qui avait des yeux, une bouche parlant avec arrogance, et une plus grande apparence que les autres. Je vis cette corne faire la guerre aux saints et avoir victoire sur les saints. Jusqu'au moment où l'ancien des jours, Saint Joseph, ça, il ne le savait pas ça, Daniel, vint donner droit aux saints du Très-Haut. Et le temps arriva où les saints furent en possession du royaume. Il me parla ainsi, le quatrième animal, c'est un quatrième royaume qui existera sur la terre, différent de tous les royaumes, et qui dévorera la terre tout entière pour la fouler aux pieds et la briser tout entière. Le royaume de l'Antichrist ne sera pas drôle, hein. Les 10 cornes, ce sont les 10 rois qui s'élèveront de ce royaume. À l'époque de l'Antichrist, il y aura 10 royaumes dans le monde. Il y aura l'Europe, il y aura l'Amérique du Nord, il y aura l'Asie du Sud-Est, il y aura l'Afrique. Hein. Et on sait exactement quelles sont les frontières, puisque aujourd'hui, toutes ces 10 zones sont déjà découpées. Elles ont toutes leurs autonomies, elles ont tous leurs accords. Et donc, on sait aujourd'hui, pas depuis longtemps, depuis seulement 7 ans, quels sont ces 10 royaumes. Vous voterez la Constitution européenne. Il faudra voter. Hein. Alors, les 10 cornes, tout ça, ça. La France a des racines, vous comprenez? Israël a des racines. Mais l'Europe, je sais pas, vous mettez la Turquie, vous mettez la Slovaquie, vous mettez la Serbie. Pourquoi pas mettre Tombouctou, je veux dire, et puis il n'y a pas de racine, il n'y a aucune racine commune maintenant. Enfin, qu'est-ce qui se passe ? Bon. Alors, on continue. Il prononce ça, tac, 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 tac. Les 10 cornes sont les 10 rois qui s'élèveront de ce royaume. Un autre s'élèvera après. Vous voyez qu'on sort de l'Apocalypse, hein, puisqu'on est obligé de prendre une interprétation électron libre, hein, trop temporelle. Et c'est l'Apocalypse ne fait pas ça, hein. Mais de temps en temps, on peut faire un petit aparté, hein, tu vois, parce que l'électron libre reste vrai s'il est pris dans l'ensemble, n'est-ce pas? Alors, donc, il ne faut pas interpréter l'apocalypse pour donner une interprétation historique. Mais l'interprétation historique peut rentrer dans l'apocalypse, dans l'interprétation qui, elle, est divine, céleste. Hein? Donc il prononcera des paroles. Un autre s'élèvera, pardon. Ce sont 10 rois qui s'élèveront de ce royaume. Un autre s'élèvera après eux et sera différent des premiers. Il abaissera 3 rois. Il prononcera des paroles contre le Très-Haut, opprimera les saints du Très-Haut et espérera changer les temps et la loi. Et les saints seront livrés entre ses mains pendant un temps, 2 temps et la moitié d'un temps. Ça va être 3,5, d'accord ? Puis viendra le jugement et on lui ôtera la domination. 3,5 ans, ça fait 42 mois. Hein. 42 mois, ça fait 1260 jours. puis viendra le jugement. Et on lui ôtera sa domination qui sera détruite et anéantie pour jamais. Le règne, la domination et la grandeur de tous les royaumes qui sont sous les cieux seront donnés au peuple des saints du Très-Haut. Voilà. Vous voyez ? C'est pour ça que j'aime bien l'Apocalypse, moi. Son règne est un règne éternel. Et tous les dominateurs le serviront et lui obéiront. Chapitre 7 du prophète Daniel. Toi, Daniel, tiens bien secrète ces paroles et scelle le livre jusqu'au temps de la fin. Plusieurs alors le liront à la fin et la connaissance augmentera. Et moi, Daniel, je regardais et voici deux autres hommes se tenaient debout. L'un en deçà du bord du fleuve et l'autre au-delà du bord du fleuve. L'un d'eux dit à l'homme vêtu de lin qui se tenait au-dessus des eaux du fleuve, « Mais quand sera la fin de tous ces prodiges ?» Et j'entendis l'homme vêtu de lin qui se tenait au-dessus des eaux du fleuve. Il leva vers les cieux sa main droite et sa main gauche. Et il jura. Il jura par celui qui vit éternellement que ce sera dans un temps, des temps et la moitié d'un temps. Et que toutes ces choses finiront quand la force du peuple saint sera entièrement brisée. Jésus a été entièrement brisé. Le corps mystique de Jésus doit être dans sa force. Dans sa force visible, entièrement brisé. Ce mystère de la séparation du corps et de l'âme de Jésus, nous devons nous le vivre en tant que corps mystique de Jésus. On doit être anéanti. Vous voyez, je disais, quelqu'un m'a envoyé un courrier aujourd'hui sur les statistiques. Bon, les statistiques, ça ne veut rien dire, c'est pas très important, mais enfin, quand même. Sur en France, quand même, on avait, je crois, presque 1000-2000 ordinations de prêtres par an quand j'étais enfant, quand j'étais jeune. Je crois que maintenant on aboutit. Je crois que c'est les deux tiers des diocèses n'ont plus une seule ordination. Zéro. C'est impensable. C'est strictement impensable. La moyenne d'âge des prêtres en France est de 67 ans. Ça veut dire que dans 3 ans, la moitié en moins. Puisque à 70 ans, ils s'en vont, n'est-ce pas ? Parce qu'en plus, à 70 ans, ils s'en vont. Alors bien sûr, les seuls prêtres qu'on voit arriver, c'est à Paris. Ah oui, d'accord, le Monseigneur Lustiger a fait 200 ou 300 ordinations depuis qu'il est archevêque de Paris. Oui, mais si Paris est brûlé, alors c'est 300 nouveaux et il ne reste plus rien. Parce qu'il y a la panthère, faut pas l'oublier, n'est-ce pas ? On va voir la panthère. À un moment donné, on va voir bien. Il n'y a plus rien. Visiblement, l'institution visible de l'Église, vous voyez, plus rien. Visiblement. Mais invisiblement, l'Église. Visiblement, plus rien. Mais invisiblement. On a invisiblement le monde nouveau. Invisiblement. Et c'est ce que disait la petite Marthe Robin. C'est invisiblement, c'est le plus grand moment de l'Église. Le plus grand moment de lumière, d'amour, de grâce. Le plus grand moment. Il y a comme une espèce de séparation de l'institution visible et extérieure et de l'âme vivante. À un moment donné, quand Jésus est mort, son âme a été séparée de son corps. Et en même temps, nous, qui sommes à la fois l'Église visible et à la fois l'Église invisible, on est très très liés à l'Église visible, puisque nous sommes l'Église visible. On est très liés aux prêtres, aux évêques, aux papes, à tout ça, aux sacrements et tout ça. On est très liés. Mais on est infiniment plus liés à ce qui se passe dans les limbes, à ce qui se passe dans l'invisible, à ce qui se passe dans, dans les fruits des sacrements. À tel point qu'à un moment donné, même s'il ne peut plus y avoir de sacrements, on sera entièrement dans les fruits des sacrements. Ça, c'est le secret, ça. C'est le secret, ça. C'est le petit secret, c'est le fruit des sacrements. C'est affreux, il n'y a plus de prêtre, il n'y a plus de messe, il n'y a plus de saint. L'Antichrist, il n'y a plus de messe, c'est vrai. Attends, l'Antichrist, il n'y a plus la messe. Pendant 1280 jours, ça, c'est vrai. Moi, je dis tant mieux. Tant mieux, parce que du coup, on vivra du fruit des sacrements. Enfin, pas trop tôt. C'est vrai. Mais en même temps, on est très, très, très amoureux du sacrement, de l'Eucharistie. Vous voyez ? Même s'il est dépouillé de ça, quelque part, vous voyez. Il n'y a pas que les sacrements dans la visibilité de l'Église, vous sentez bien ce que je veux dire. Dans la nuit profonde de l'esprit, dans la nuit profonde et aquasée de l'âme, dans la nuit profonde, très très profonde de la foi, il n'y a plus rien de sensible. Et c'est le moment où notre foi est capable de faire le grand exorcisme sur tous les possédés de toute la terre, à nous tout seuls. C'est vraiment la foi la plus puissante, c'est quand il n'y a plus rien de sensible. Et l'Église va être amenée jusqu'à ce mariage spirituel où la foi va être là à l'état pur. On doit vivre cette séparation du sensible et du surnaturel pour qu'il n'y ait plus que du surnaturel dans un corps vidé du sensible. Plus aucune énergie. Plus aucune énergie christique sensible. Rien. Alors, les autres, bien sûr, qui se fichent pas mal du monde surnaturel, d'une part, de l'Église, d'autre part, et de Dieu, en troisième, évidemment, comblés d'énergie christique. Comblés d'énergie christique, les pauvres. Bon. Oh, c'est vraiment extraordinaire. Alors, et moi, Daniel, je regardais. Et j'ai entendu l'homme vêtu de lin, donc où est-ce qu'on en était? Toutes ces choses finiront quand la force du peuple saint sera entièrement brisée. Vous voyez? Et quand vous voyez Marthe Robin, c'était extraordinaire d'avoir connu Marthe. Pourquoi? Parce que Marthe, un peu comme mieux même, beaucoup mieux que Sainte Thérèse d'Avila, avait connu la mort. Elle a connu la mort à 47 ans, comme Sainte Thérèse d'Avila. Hein. Et puis au bout de 2 ou 3 jours, puis le Seigneur a dit, mais peut-être qu'il faudrait justement faire partie de ceux qui vivent de ça. La force du peuple saint entièrement brisée. Alors du coup, elle a dit, ben voilà, d'accord, il faut être déjà là pour vivre de ce que l'Église doit vivre. De ce que Jésus doit vivre sur la terre. Alors du coup, elle est revenue vivante, seulement la tête qui vivait. Et encore, elle ne pouvait même pas déglutir. Tout le reste était mort. Pendant 50... un peu moins de 50 ans. Hein. Seulement le corps du Christ, l'Eucharistie, qui venait voler jusqu'à elle, à se mettre sur le fond de son palais. Elle ne pouvait pas déglutir. De temps en temps, on faisait un pchit-pchit pour qu'il y ait un petit peu d'humidité. Donc elle était morte. La tête seulement vivait. Pourquoi? Parce que le corps du Christ, le corps mystique du Christ, c'est Jésus la tête et nous les membres. Hein. Mais les membres étaient morts. Dans Marc, les membres étaient morts. Avec la tête, elle pouvait parler. Mais c'est tout. Vous voyez? Et ce qui se passait dans le cœur, dans le sang de cette femme, c'est ce qu'il y a de plus grand. Pour un chrétien. Le mariage spirituel à l'état pur. C'est vraiment extraordinaire, hein, c'est vrai. L'esprit d'enfance, avec elle. Vous avez entendu parler, je pense, demain. Mais c'est au point de vue symbolique. Au point de vue symbolique, là, c'est extraordinaire. Franchement, c'est C'est très parlant. L'Église doit vivre ça. Vous voyez, Jésus est vivant, il est glorifié. Et nous, entièrement brisés. Mais on est tellement unis corporellement, on est tellement unis avec Jésus sur la terre de notre ciel et dans le ciel de notre terre, on est tellement unis dans le corps spirituel que tout vit du coup. Mais c'est dans la transverbération que tout vit. Et il n'y a rien de créé qui nous fait vivre. Seulement l'Eucharistie, c'est tout. Seulement le fruit des sacrements, c'est tout. C'est tout. C'est quelque chose de très 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 beau. Ah bon, bah je continue. J'entendis, mais je ne compris pas. Oui, tout le monde ne comprend pas ça. Alors, je dis, Monseigneur, quelle sera l'issue de toutes ces choses? Il répondit, va Daniel, car ces paroles sont tenues secrètes et cachées, incompréhensibles jusqu'à la fin des temps. Plusieurs seront purifiés, blanchis et rendus purs et épurés. Les méchants feront le mal, et aucun des méchants ne pourra comprendre. Mais ceux qui auront l'intelligence, l'esprit d'intelligence, comprendront. L'esprit d'intelligence, c'est l'esprit d'enfance, hein? L'esprit d'intelligence, c'est l'esprit d'enfance. Si vous savez ce que c'est que l'esprit d'intelligence, comme don du Saint-Esprit, c'est l'esprit d'enfance. C'est l'esprit de contemplation. Ils comprendront. Comprendront quoi? Deux points. Depuis le temps où cessera le sacrifice perpétuel et où sera dressée l'abomination du dévastateur, il y aura 1290 jours. Heureux celui qui attendra et qui arrivera jusqu'à 1335 jours. Et toi, marche vers ta fin. Tu te reposeras, tu seras debout pour ton héritage à la fin des jours. L'ange Gabriel avait prophétisé au prophète Daniel, oui, que tout va commencer avec la fameuse abomination de la désolation. Et l'abomination de la désolation commence le temps de l'Antichrist. Hein? En latin même, je peux vous le dire si vous voulez. Post hebdomades sexaginta tuas occidetur Christus. Le Christ sera tué. Et le jour du Seigneur non eriteius ne sera pas avec lui. Et civitatem et sanctuarium dissipavit populum, populus cum duce ventro. Et donc le sanctuaire et la cité de Dieu sera dispersée. Et finis eius vastita, cette post finem bellis statuta, et il y aura beaucoup de troubles, beaucoup de désolation pour ce sanctuaire et pour cette cité, c'est-à-dire le peuple d'Israël. Confirmabit autem pactum multis hebdomadas una et dimidio, in dimidio hebdomadis, 3 ans et demi, au milieu, la moitié d'une semaine, 3 ans et demi. Deficiet hostia, il n'y aura plus l'hostie. Deficiet hostia, l'hostie. Et sacrificium, et sacrifice parfait, vont disparaître pendant les 3 ans et demi. Et in templo, parce que in templo, dans le temple, erit, aura surgi, abominatio desolationis, sicutim meshomer. L'abomination de la désolation. Ce qui produira, et usque, ad consummationem, jusqu'à la consommation de tous les temps, perseverabit désolation, une désolation métaphysique qui persévérera. Donc, ouais, donc l'ange Gabriel avait quand même bien dit que. Et là commence la fameuse 1290 jours. Donc, vous voyez bien? On en parle, quoi. 1290 jours, 42 mois, 3 ans et demi. C'est dans l'Ancien Testament. C'était juste culture générale. C'est parce que ici, maintenant, on va le lire dans le quatrième et cinquième signe de l'Apocalypse. Je suis tombé dans l'Apocalypse. Donc, à partir de là, on va voir un petit peu. Hein. Nous avions lu chapitre 12, je crois. Et nous avions vu le quatrième et cinquième signe, donc un signe grandiose, je le relis, apparu au ciel. c'est que le temple de Dieu s'était ouvert dans le ciel. Le temple de Dieu, c'est le corps du Christ. Le corps de Jésus qui est au ciel s'est ouvert. Vous vous rendez compte? Le corps de Jésus au ciel s'est ouvert. Qu'est-ce que ça fait? Le corps de Jésus s'est ouvert. Je ne sais pas comment vous dire. À chaque fois que vous avez la messe, le corps de Jésus ressuscité s'ouvre. Le sacrifice est renouvelé. Mais ce qu'il y a, cette fois-ci, il s'ouvre et là apparaît, il y a l'apparition de l'Arche d'Alliance qui apparaît dans ce corps de Jésus qui s'ouvre. Ça, on l'avait lu. Alors, à ce moment-là, se firent des éclairs et des voix et des tonnerres et un tremblement de terre et la grêle tombait dessus. Et là, cette fois-ci, c'est l'envoi du paraclet. Donc, il va y avoir quelque chose qui va faire que quelque chose du corps de Jésus va s'ouvrir à nos yeux et une réalité eucharistique, vous voyez, une présence réelle, mariale, arche d'alliance, glorieuse, va se manifester pour l'envoi du paraclet. Et la grêle tombait drue. Alors un signe grandiose apparut au ciel. Et c'est beau l'Apocalypse parce que tu veux mieux comprendre. Alors je vais préciser. Un signe grandiose apparut au ciel. Une femme. Et le soleil l'enveloppe. Ce n'est plus le visage comme le soleil. C'est le soleil qui enveloppe entièrement la femme. C'est le Christ total. C'est l'Église. L'Église est comme Marie. À un moment donné, l'Église sera comme Marie. Ou bien tu auras la grâce sanctifiante, tu seras comme Marie, ou tu n'auras pas la grâce sanctifiante, tu es promis aux énergies. Le soleil l'enveloppe, la lune est sous ses pieds. Vous voyez, les énergies, c'est la lune, hein, le monde sublunaire. Vous savez que le monde sublunaire représente, dans toute la tradition gnostique et même théologique et philosophique aussi, le monde des énergies, le monde du paranormal, le monde cosmique, le monde tellurique, le monde du pouvoir, de guérir, tout ça, c'est tout ce monde-là, vous voyez? Ce monde de la transmission de pensée, ce monde de vibratoire, invisible, ce que vous voulez, bon. Et bien, c'est sous ses pieds, vous voyez? Elle écrase le serpent, elle écrase elle domine, elle est au-dessus. Ça ne fait pas partie d'elle. Stop. Ouais, extraordinaire. La lune sous ses pieds. Et 12 étoiles couronnent sa tête. C'est l'Église. Il y a la plénitude apostolique de la femme, de l'épouse qui est mariale. Marie donne tout ce qu'elle est au ciel à ceux qui sont sur la terre, et c'est donné justement par cette apparition de l'Arche d'Alliance, le fruit des sacrements va donner la plénitude de son fruit dans les élus. C'est pour ça que c'est pas du tout une mauvaise nouvelle, l'Apocalypse. Moi ça me plaît, hein. Attends, quand Saint Joseph il s'est retrouvé en disant c'est l'Immaculée Conception qui est ton épouse, il dit mais ça c'est apocalyptique cette affaire. Ah oui, il a raison, oui. Non, moi je suis Saint Joseph, puis la Sainte Vierge qui est mignonne comme tout, c'est plus que mignonne, on s'en fiche presque. Mais c'est ton épouse, c'est ta moitié sponsale. C'est une nouvelle apocalyptique. Ah oui, c'est une nouvelle apocalyptique, c'est trop beau. C'est apocalyptique, c'est apocalyptique. Surtout quand tu sais ce que ça veut dire l'unité responsable, ça veut dire tout pouvoir est donné à ta moitié responsable de prendre possession entièrement de tout ton terrain. Et réciproquement, t'en comptes, pour lui. C'est trop beau, quoi. Entièrement possédé par toi, transubstancié en toi, changé en toi. Il ne reste plus que toi. Et elle-même, elle disparut, il ne reste plus que le Père. C'est pour ça que le Père peut envoyer son Fils dans sa chair. C'est apocalyptique, l'incarnation. Mais quand ça va être donné à tous ceux qui ont compris ce que c'était que le corps spirituel de Saint Joseph, cette mer d'émeraude de Saint-Douane, et que cette fois-ci c'est le corps mystique de l'Église, c'est un mariage avec Jésus, c'est un mariage avec Marie-Reine, et que le temple de ce mariage c'est nous, quoi. Voilà, que ça va devenir clair, quoi, clair, clair, l'apparition de l'Arche d'Alliance. C'est la croix glorieuse, hein, l'Arche d'Alliance, vous le savez. Je pense que les pères de l'Église ont dit que l'apparition de l'Arche, quand le corps du Christ s'ouvrirait dans le ciel, ce sera une croix glorieuse. Hein, hein, c'est, vous savez ça. Quand vous fêtez la croix glorieuse le 14 septembre, vous ouvrirez le missel, vous voyez, c'est ce qui est dit. Missel de l'Église catholique, bien sûr. C'est pas une secte, hein, l'Église catholique, hein, c'est infaillible. C'est quand même beau, hein, je trouve. Ah oui, le soleil enveloppe la lune et sous ses pieds 12 étoiles couronnent sa tête. Elle est enceinte, c'est la vision céleste de l'Église. Couronne sa tête. Elle est enceinte. L'Église va enfanter. L'Église Marie-Reine, à travers les membres du corps mystique vivant de Jésus vivant, va enfanter. Mais qu'est-ce que nous allons enfanter, dites-donc ? Oh, ça m'intéresse, oh ! Elle crie dans les douleurs et le travail d'enfantement. Ah, d'accord, ce ne sera pas dans l'allégresse et dans la joie. Ah, ouais, d'accord. Et parce qu'à Noël, ça s'est fait vraiment dans le coton. Et oui, c'était dans la transfiguration qu'ils étaient. À Noël, Jésus est né, aucune douleur. Lumière, née de la lumière. Transfiguration. Et palpitait de lumière et d'amour, tout palpitant de lumière et d'amour. Tandis que là, l'enfantement de la fin, le grand enfantement, ou le Noël glorieux, ce sera le Noël de l'agneau. Ah, alors là, il y aura du travail de l'enfantement, et des secousses. Puis un second signe apparut au ciel, un énorme dragon. Un énorme dragon, rouge feu. Oh, ah, celui-là, il est en colère, attends. Avarice, orgueil, envie. Bah, et, il est de la colère aussi, celui-là. Ah, donc quelque chose d'un petit peu plus que du pur démon, alors. À sept têtes. Donc, il a une intelligence parfaite. Sept têtes. Et 10 cornes, une puissance, 7 total, plus 3, et admirable, vous voyez, 10, et 10 ça fait penser évidemment aux 10 royaumes, 10 cornes, on l'a vu dans le prophète Daniel, c'est l'ange Gabriel lui-même qui a dit que les 10 cornes, ce serait au moment où il y aurait 10 zones dans le monde. Ce qu'a dit la Vierge de la Salette aussi, hein. Quand il y a 10 ans dans le monde, sachez que c'est l'heure. Chaque tête surmontée d'une couronne. Alors ça veut dire qu'ils règnent vraiment. Ils ont pouvoir, puissance et royauté, c'est-à-dire c'est eux qui ont tous les pouvoirs et qui ont effectivement l'autorité. Mais c'est les têtes qui ont autorité, c'est les idéologies. C'est quoi ces idéologies ? Vite. Pourquoi est-ce que c'est dur? Pourquoi est-ce qu'on souffre? Parce qu'il y a un dragon à 7 têtes, ces 10 cornes. Ah! Résultat de ces idéologies. Sa queue, la queue du dragon, là, balaye le tiers des étoiles. Les étoiles, c'est quoi? C'est les théologiens, c'est les saints, qui sont censés éclairer la nuit de la foi. Le tiers des théologiens, avec les idéologies, sont ramenés à de l'humain, du terrestre. la chute, vous voyez, l'apostasie des théologiens. Un tiers. Un tiers, ça veut dire que c'est ceux qui crient le plus fort, vous inquiétez pas, puisqu'il y a 10 cornes, 7 têtes. Mais les 2 tiers, ils sont restés des saints hein, parmi les théologiens. Ils ne sont pas publiés. Ils sont interdits de publication. Donc. Mais ils existent, vous inquiétez pas. C'est les 2 tiers, c'est le plus grand nombre. Bon, 1/3 quand même, les idéologies. Parce que si vous avez une idéologie, si vous êtes positiviste, parce que je voudrais pas citer de nom, ils sont encore vivants, mais si celui qui est allemand, là, qui déchaîne les librairies, là, c'est fou. Qu'est-ce qu'il dit ? Je vous assure, j'ai lu un livre de l'évangile de Saint... Il dit évangile de Saint-Marc. Non, il dit pas évangile de Saint-Marc, il dit évangile de Marc. Bon. Et il dit ceci explicitement, et j'ai lu de A à Z, hein. J'ai vraiment halluciné. Hein. J'ai halluciné. Attends, il est prêtre, il est théologien, c'est le plus grand théologien d'aujourd'hui, quoi, on peut dire, disent certaines personnes. Il dit bien, je cite, la seule lumière, la seule clé de compréhension de l'évangile de Saint-Marc, mais pour tous les autres évangiles c'est pareil, c'est Freud. Tu ne peux pas lire l'évangile de Saint-Marc si tu n'es pas freudien. C'est la seule, attends, c'est pas une. C'est la seule. Alors, pour Freud, toute profonde finalité et fondement de l'homme, c'est la libido, l'énergie sexuelle. Vous savez que Freud a dit, à chaque fois que j'ai eu une intuition sur l'idéologie qui est ma pensée, je l'ai eue en pissant contre un arbre. Voilà la source, la seule source d'interprétation de l'évangile de Saint-Marc. C'est l'urine de Freud. La seule! Ah, vous voyez ce que c'est qu'un dragon? Est-ce que c'est qu'une idéologie? Une idéologie, Freud est athée. Et dis-moi, l'esprit n'existe pas, je ne l'ai jamais expérimenté. L'homme ne peut pas être spirituel, il n'a pas d'esprit, il ne peut pas être contemplatif, il peut pas être, il n'est pas spirituel, puisque moi je n'ai jamais expérimenté, donc j'ai expérimenté que l'instinct sexuel, c'est tout. Donc l'homme n'est qu'un instinct sexuel, c'est tout. Donc du coup, allez voir le psychiatre, allez voir le psychanalyste, allez voir, prenez les médecins psy, etc. Ils sont tous freudiens, tous. Oui. Et donc si l'idéologie athée, si toi tu es théologien et que tu as cette pensée d'athéisme radicale dans ta tête et que du coup tu vas prendre la Bible pour l'interpréter, tu fais une interprétation théologique athée. Tu es un théologien athée. Et bien c'est ça le dragon, vous voyez. Le dragon, la queue du dragon qui fait tomber 1/3 des étoiles sur la Terre, c'est ça. Si vous prenez, quelles sont les 7 idéologies athées? Vous savez par cœur, j'espère. Allez, on va mettre un nom sur chacun. Voyez, les 7 têtes, c'est les 7 idéologies athées de la fin. Vous avez Freud, Marx, Nietzsche, le néo-hégélianisme, Sartre, Freud, Croce, si vous préférez, l'évolutionnisme. Tu descends du singe, forcément. Attends, le singe, il a la libido comme toi, donc t'es pas plus que lui, hein, d'accord. Donc tu descends du singe. L'évolutionnisme. La vie, l'évolutionnisme, c'est quoi? Ça veut dire la vie par elle-même est sacrée. C'est pas vrai, la vie n'est pas sacrée. Moi, si je cueille une fleur, je coupe de la vie et je fais pas un sacrilège. La vie n'est pas sacrée. C'est l'esprit qui est sacré. Ma vie contemplative est sacrée. Mon mariage est sacré. Parce que c'est mon amour spirituel qui est sacré. Parce qu'il est spirituel. Mais la vie n'est pas sacrée. Mais l'évolutionnisme, la vie est sacrée. Donc si tu laisses la vie aller, petit à petit, elle va s'améliorer. Elle va évoluer vers le mieux. Alors c'est le contraire, puisque tu laisses la vie évoluer, elle se corrompt. Il n'y a pas de téléonomie dans la vie, enfin. Il y a une téléonomie dans l'esprit. c'est quand même tout à fait différent. C'est Dieu qui fait cette théologie. La finalité de toute vie, c'est Dieu. Donc c'est l'esprit qui est sacré, c'est pas la vie. Bon, et pas comme ça avec toutes les autres idéologies. Le matérialisme, c'est la matière qui est sacrée. Le marxisme, c'est du matérialisme dialectique. L'idéologie américaine, le libéralisme d'aujourd'hui, hein? Bancaire, machin, consommation, et c'est la même idéologie, exactement la même que le marxisme. C'est du matérialisme dialectique. Ce qui fait avancer, c'est le matériel, c'est la matière, c'est la praxis. C'est la plus-value. Et même si on doit dégager les deux tiers de l'humanité, c'est pas grave, du moment que ça fait de la plus-value, c'est bon. Oui. On peut prendre 300 000 enfants congelés en France, c'est pas grave si ça fait de la plus-value. La matière de dialectique matérialiste, c'est quelque chose de terrible. Le marxisme, si vous voulez. Bon. Freud, c'est le beau. Mais bien sûr, voilà, c'est le beau. C'est la beauté. C'est faire quelque chose de beau. C'est l'art, quoi. C'est le beau. C'est ça, mais oui, bien sûr, c'est le beau qui est sacré. Le beau, c'est un transcendantal de Dieu. Dieu est beau. Mais non, Dieu n'est pas beau. Si la fleur qui est devant vous, elle est belle, c'est parce qu'elle est limitée par une forme. Mais Dieu n'est pas limité par une forme. Donc il n'y a pas de beauté en Dieu. Dieu, c'est le beau. Mais non, Dieu, c'est pas le beau. L'art. C'est par l'art que je vais arriver à Dieu. Pas du tout. Tu n'arriveras jamais à Dieu par l'art. Jamais. Je vais faire une belle sculpture de Dieu. Enfin, j'ai rencontré comme ça. Il prenait des blocs, mais incroyables, de 2 mètres sur 3, hein, en cube, hein, de marbre de Carrare. Je ne sais pas si vous avez déjà vu du marbre de Carrare, mais c'est impressionnant. C'est une de mes voisines dans mon hermitage d'Ops. Elle sculptait ça. Un jour, elle a sculpté transsubstantiation de la substance. Hein, c'est pas mal quand même. Transsubstantiation de la substance. Je sais pas comment elle faisait, mais tu avais l'impression que son marbre volait, quoi. Que tu soufflais dessus, il se renvolait. Transsubstantiation de la substance. C'est admirable. Admirable. Mais je dis, il vous manque quelque chose. Vous auriez pas dû appeler ça transsubstantiation de la substance. Parce qu'il n'y a pas de substance. Elle dit, ah bon, j'aurais dû appeler ça comment? Alors j'ai expliqué la différence entre la substance. Vous auriez dû appeler ça transsubstantiation de l'essence. Mais vous ne pouvez pas sculpter la transsubstantiation de la substance. Elle a été très blessée, hein? Très blessée. Parce qu'elle pensait vraiment qu'on pouvait atteindre, dire quelque chose par le marbre de Carrare. C'est très beau, hein? Ça n'enlève rien au fait que son truc était très, 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 très beau. Vous voyez, l'art, c'est moi qui transforme. C'est moi, le créateur n'existe pas. Toutes les idéologies athées, c'est Dieu n'existe pas. Donc si Dieu est créateur, et qu'il n'existe pas, le créateur, c'est moi. Donc le beau, c'est Dieu. Si l'éternité vivante de Dieu n'existe pas, la vie que j'ai, c'est Dieu. Donc c'est l'évolutionnisme. Vous voyez, si, etc. Alors, toutes les idéologies sont athées. Le père dont je vous parlais tout à l'heure, lui, c'est Freud. Ah ben voilà, Freud, et très bien, c'est Freud. C'est Freud. Donc, tout est sexuel, c'est tout, c'est la libido, c'est tout. Voilà, voilà. Voilà le fond, la substance, le sacré, le supérieur, l'inférieur et l'universel de toute explication spirituelle. C'est effrayant. Et oui, puisque si Dieu n'existe pas, il reste plus que la libido. Il ne reste plus que cette force de vie de se répandre partout. Oui. Et c'est ça, vous voyez, le dragon à sept têtes, c'est les sept idéologies. Donc ça veut dire que le signe, nouveau signe, un monde avec 10 grandes zones, et enfin dominé par les sept idéologies athées. Les sept idéologies athées. Et ce qui est marrant, c'est que quelquefois, il y a des croisements entre les idéologies athées. Si par exemple, vous croisez Auguste Comte avec Marx, et ça donne Lénine, du léninisme. Vous pouvez croiser comme ça. Si vous croisez Freud avec Marx et avec l'évolutionnisme, ça donne Reich. Reich, c'est se mettre à penser de la révolution de 68. Révolution culturelle. Et en ce moment, et quand les sept idéologies sont unies, alors à ce moment-là, ça y est, c'est la bête rouge. Ce sera quand ça? Dans un siècle? Il me semble que... Alors, 10 cornes, vous voyez, sa queue balaye le tiers des étoiles du ciel et les précipite sur la terre. Une violence incroyable. Et en arrêt devant la femme en travail, le dragon s'apprête à dévorer son enfant aussitôt qu'il naîtra. Le dragon idéologique sait, le dragon rouge sait que l'Église va, le dragon le sait, que l'Église va engendrer quelque chose qui va le balayer. Vous savez, le Satan, il le sait, il a l'habitude. Mais là, cette fois-ci, il mobilise toute la terre, il mobilise toutes les idéologies, il mobilise, tout est mobilisé. Donc cette fois-ci, il ne va pas se laisser surprendre. Qu'est-ce que va donc engendrer l'église du sixième sceau, l'église de la sixième trompette? L'église de la parousie, l'église de l'enfance, qui va engendrer quelque chose. Hein? Or la femme mit au monde un enfant mâle. Hein? L'Église va engendrer un enfant mâle. Bon. Et celui qui doit mener toutes les nations à, avec un sceptre de fer. L'enfant mâle, le fils de l'homme, qui doit gouverner toutes les nations, ça désigne la conversion d'Israël. L'Église va engendrer de ses entrailles la conversion d'Israël. Le Fils de l'homme. Vous comprenez pourquoi il faut bien les enfermer dans un mur? Parce qu'on est en arrêt. Hein? Le dragon est en arrêt. Hein? Il est en arrêt. Mais l'idéologie ne va pas suffire, vous allez voir. Parce que quand toutes les nations seront menées avec un sceptre de fer, vite. Et son enfant fut enlevé jusqu'auprès de Dieu et de son trône. Enlèvement. C'est vraiment dit rapidement, hein. Après la conversion d'Israël, le rapt. Mais on va y revenir après. Ne vous inquiétez pas. Enlevé jusqu'auprès de Dieu et de son trône, Saint Joseph. Ah, bon. Ah, alors là, il y aura un enlèvement de devant le dragon. plus atteint par aucune idéologie. Il n'y a plus marxiste, plus freudien, plus évolutionniste, plus aucune des idéologies. Vous vous rendez compte? C'est pas génial, ça? Rien! Plus aucune idéologie athée, quoi. On est en dehors de tout ça. C'est extraordinaire, ça, de débarrasser de tout ça. Purifier complètement de tout ça, d'un seul coup. Mais qu'est-ce qui va faire ça, enfin? Un engendrement. La conception d'un enfant. C'est bizarre quand même tout ça, ça se recoupe, hein. Alors. Enlevé jusqu'au prêtre de Dieu, tandis que la femme s'enfuyait au désert où Dieu lui a ménagé un refuge pour qu'elle y soit nourrie 1260 jours. Donc la femme, l'église, l'église du ciel dans la terre, il lui a proposé un refuge, elle sera protégée contre le dragon dans le désert de la prière, dans le désert silencieux. Le désert, c'est le monde du silence, c'est le monde de l'intériorité. Et c'est le monde de la grâce. Parce que le monde de l'idéologie, c'est la propagande. C'est la radio, la télé, les journaux, les bouquins et les gens qui braillent. Encore une fois, c'est 1260 jours qu'on avait déjà vu la dernière fois, à deux ou trois reprises. Alors il y eut une bataille dans le ciel. Michel et ses anges combattirent le dragon. Et le dragon riposta. Comme Marx, il y avait quand même des choses de vraies dans ce qu'il disait, enfin. Et Freud, il y a quand même des choses de vraies, enfin. Qu'est-ce que c'est ça? Je dis, mon cher Noël, mon cher père.
Non. Non. Rien de vrai. Rien.
Rien. Bon, quand même. Vous voyez, il n'y a pas de compromission avec un principe idéologique athée, puisque l'athéisme est un blasphème sur la source, sur le principe, sur la fin et sur la lumière. Donc, je veux dire, qu'est-ce qui reste de vrai ? Reste qu'une espèce d'écorce qui se transforme en grenouille, en crapaud, en cloque, c'est ça. Puis après tu prends une épingle, tu chopes, puis la cloque, elle éclate, puis il n'y a plus rien. Faut pas trop cloquer ces cloques-là, parce qu'après ça fait des virus, comme le sida, tout ça, et puis un peu plus... Bon, donc laissez les cloques tranquilles. Vous voyez ? Alors, donc les anges arrivent, les anges glorieux arrivent dans le corps. Une fois que le corps de l'Église est entier, qu'il est un, vous voyez, qu'il y a cette unité très forte avec la Sainte Famille glorieuse, dans ce refuge, en dehors des idéologies, alors à ce moment-là, le dragon riposta avec ses anges, mais ils eurent le dessous, et ils furent chassés du ciel. Du monde spirituel, vous voyez, du monde de la contemplation. Dans notre contemplation, il n'y aura plus rien qui vienne du démon. C'est pas beau, ça. Et on le jeta, donc, l'énorme dragon, l'antique serpent, et le serpent, c'est le trompeur, le diable ou le Satan, comme on l'appelle, le séducteur du monde entier, on le jeta sur la terre. On jeta sur la terre et ses anges furent jetés avec lui sur la terre. Hein? C'est-à-dire sur ceux qui aiment la terre. Ceux qui préfèrent les choses terrestres, tous les démons sont pour eux. Voilà le résultat. Ah, moi, j'aime pas le terrestre, hein? Oh, c'est un tabernacle qui me plaît pas beaucoup, ça. Et j'entendis une voix clamer dans le ciel, dans le monde de la contemplation, le ciel, hein, d'accord. Désormais, la victoire, la puissance, la royauté. Dès qu'on voit que tous les démons sont dans ce qui est terrestre, alors voilà ma prière. Quand je vois que tous les démons sont dans le terrestre, tous, hein, voilà ce que je peux dire. Désormais, ça y est, la victoire, la puissance et la royauté sont acquises à notre Dieu. Et la domination à son Christ, puisqu'on a jeté à bas l'accusateur de nos frères, celui qui les accusait jour et nuit devant notre Dieu. Mais nos frères, eux, l'ont vaincu par le sang de l'agneau, par la verbe dont ils ont témoigné, car ils ont méprisé, ah voyez, parce qu'ils ont méprisé leur vie jusqu'à mourir. Soyez donc dans la joie, vous, les cieux, les mondes angéliques glorieux, et vous, leurs habitants, vous qui habitez le monde de la contemplation. Malheur à vous, la terre! Malheur! Aïe! Oi! Oi! Aïe! Ahoy! En hébreu. Malheur! Malheur à la terre, ceux qui sont attachés à la terre, et la mer attachée au temps! Car le diable est descendu chez vous, frémissant de colère, et sachant, lui, que ses jours sont comptés. Se voyant rejeté sur la terre, le dragon se lança à la poursuite de la femme, la mère de l'enfant mâle. C'est à la poursuite, puisque la femme va partir dans le milieu, dans le désert, en solitude. Et bien même là, ils vont, même dans la solitude, ils vont l'attaquer. Quoi. On ne peut pas le laisser tranquille dans sa grotte, là. Alors, la rage, c'est extraordinaire ça. Alors, mais elle reçut les deux ailes du grand aigle. Elle reçut les deux ailes du grand aigle. Le grand aigle, vous voyez, l'évangile de Saint Jean, l'aigle. Elle reçut les deux grandes ailes, les ailes du grand aigle. C'est justement le fameux petit livre, mais cette fois-ci avec Jésus. L'aigle, c'est Jésus dans la vision béatifique. Elle reçoit de Jésus quelque chose de sa contemplation, quelque chose de son adoration du Père. Les deux ailes, c'est l'adoration et la contemplation du grand aigle, du Verbe incarné. Pour voler au désert, jusqu'au refuge, le rapte, ou loin du serpent, elle doit être nourrie, elle doit être prise dans un lieu de contemplation, de vie profonde, d'adoration, c'est vrai, et de nourriture. Marthe, voyez, était nourrie. Un temps, et des temps, et la moitié d'un temps, et 3 ans et demi. 42 mois. Donc pendant qu'il y a cette espèce de terremotus, voyez, on dit en latin, de tremblement, de truc effrayant, mais que, ce qu'on pourrait dire, voyez, mais qu'est-ce que c'est que ce monde d'aujourd'hui, enfin, c'était toujours en retard, s'en sortir, c'est effrayant, quoi. L'église est foutue. Mais non, justement, c'est exactement le contraire. Hein. Le malheur à la terre, c'est le signe de la fin du dragon. Et donc c'est le signe du rapte, de la protection des saints, de ceux qui ont la grâce du Seigneur. Vous voyez ? Le serpent vomit alors. Cette fois-ci, c'est le serpent. Oh là là. Vomit alors de sa gueule comme un fleuve d'eau derrière la femme pour l'entraîner dans ses flots. Hein? Derrière la femme. C'est comme le cheval blanc, vous voyez. Il y avait le cheval blanc et puis derrière lui, il ne sera jamais rattrapé, ce cheval blanc, vous voyez. Et là, derrière l'église, il y a le dragon qui essaie de talonner par derrière et de jeter un grand fleuve, des torrents, un tsunami extraordinaire qui sort du serpent de séduction, quoi, pour dire « Retourne en arrière !» Vous connaissez la chef de M. Seguin ?« Reviens par ici !» En arrière, Jésus avait dit, celui qui met la main à la charrue et regarde en arrière est impropre pour le royaume des cieux. Et Saint-Pierre dit, il est semblable au chien qui retourne à son vomissement. Et l'homme, il a mis la main au paradis du refuge du corps mystique de Jésus et de la terre nouvelle, du monde nouveau. Et s'il retourne avec la nostalgie du paradis terrestre dans les énergies christiques, alors là, comprenez ce que c'est que cette séduction du serpent qui vient d'un autre arbre que celui de la connaissance. Qui vient de l'arbre de la vie, on le sait, qui a un autre arbre. Mais la terre vint au secours de la femme. Ouvrant la bouche, elle engloutit le fleuve vomi par la gueule du dragon. C'est la terre, voyez, c'est le corps spirituel. C'est grâce au corps spirituel que le corps mis en place du corps spirituel, c'est grâce au corps spirituel, vous entendez bien, c'est pas l'âme spirituelle, c'est pas la divinisation de l'âme, c'est la transformation du corps et la réception dans notre corps de cellules staminales venues d'en haut. Le corps spirituel qui fait que les os, on n'a aucun intérêt à revenir à un corps de grâce originelle dans les énergies cosmiques. Alors, furieux contre la femme, furieux contre l'Église, voyez, le dragon s'en alla guerrier contre le reste de ses enfants, ceux qui gardent les mitzvot d'Elohim et possèdent le témoignage de Jésus. Donc il ira guerroyer contre tous ceux qui ne sont pas emportés dans le monde nouveau, mais qui respectent les commandements de Dieu. Alors eux, ils vont être attaqués. Parce que vous savez qu'il y en a un sera pris et l'autre laissé. Donc ils vont rester, ils vont vouloir, ceux qui sont restés, vivre des commandements de Dieu. Là, il va pouvoir s'attaquer à eux, ceux qui ne vivent pas du mariage spirituel. Ceux qui vivent de la foi, mais... Ouais, cette espèce d'ambivalence entre l'église de Philadelphie qu'on avait vue et l'église de Laodicée, qui manque de ferveur, qui est un petit peu sensuelle. Ouais. Et je me tins debout sur la grève de la mer, sur le sable de la mer. Alors je vis surgir de la mer une bête ayant 7 têtes et 10 cornes. Vous voyez ? Une autre bête cette fois-ci, 7 têtes et 10 cornes. Mais c'est pas le dragon, c'est une autre, hein. 7 têtes et 10 cornes aussi. Oh mon Dieu. Et sur ses cornes, 10 couronnes. Et sur ses têtes, des titres blasphématoires. Et la bête que je vis ressemblait à une panthère, celle-là. Une panthère. Avec des pattes comme celles d'un ours. Et la gueule, c'est la gueule d'un lion. Elle parle comme le Christ. Parle comme le Christ. Extraordinaire quand même. Une panthère. Oui, parce que dans le livre de Jérémie, je crois que c'est le chapitre 42, ça fera, dit l'ours détruit tous ceux qui sont dans la forêt, le loup tous ceux qui sont dans le désert, la panthère ceux qui sont sur les chemins et aux abords de la cité. La panthère, vous voyez, c'est la cité, hein, c'est la cité terrestre. C'est l'humanité qui va être dévorée par la panthère. Et Jérémie dit, les taches qui sont sur la panthère, on ne peut pas les enlever. C'est la panthère, il y a des taches. Hein, je trouve ça très joli, ce genre de Jérémie. Hein, mais c'est vrai, le prophète Jérémie, magnifique aussi. Mais, autre chose, mais on voit, on l'a vu tout à l'heure avec le prophète Daniel, la panthère. Ah ouais, avec les pattes comme celles d'un ours. Ah, l'ours, tiens. La ferveur d'un ours. L'ours, c'est pas très fervent. Et la gueule comme une gueule de lion. Ah, mais il parle comme le Christ. Ah, ça, c'est très, très curieux. Et le dragon lui transmit, le dragon à cette idéologique, lui transmit sa puissance et son trône. Et un pouvoir immense. Il y a donc une deuxième bête. On va retenir ça. Hein. Et l'une de ses têtes paraissait blessée à mort. Ah, voilà une idéologie qui paraît blessée à mort. Mais sa plaie mortelle fut guérie. Alors émerveillée, la terre entière suivit la bête. On se prosterna devant le dragon. Alors il y a la bête et le dragon. On va y perdre son latin si ça continue. Parce que il avait remis le pouvoir à la bête. Ah, bon. Ah. Et on se prosterna devant la bête. Ben, décidément. Hein, on se prosterna devant la bête et on se prosterna, c'est-à-dire qu'on se prosterna devant le dragon. Ben, c'est les mêmes idéologies, mais repris dans le monde des énergies. Vous comprenez maintenant? Il y avait cette idéologie Marx, c'est quand même gros. L'évolutionnisme, l'homme descendu sage, c'est quand même très gros. Hein. C'est trop gros, quoi. C'est tellement gros que... Sartre, c'est gros. C'est gros, ça, l'existentialisme. C'est, mais il faut que je fasse ce que je veux, ce que je ressens, quand même. Sartre, c'est très gros. Je suis libre, quoi. Il faut quand même, c'est mon choix, c'est Sartre, ça, c'est l'existentialisme, c'est la liberté, c'est de faire ce que je ressens, c'est ma sincérité quand même. C'est un peu gros, hein. Celui qui pense encore comme ça, c'est que vraiment, c'est vraiment un taré, hein. C'est vraiment un taré. Alors, c'est gros, très très gros, mais il y en a que j'en connais, hein. Moi, j'en ai vu, hein. Ah oui, j'en ai vu. C'est vrai qu'ils sont freudiens. Ah, je vais mal, vite, le psychiatre. J'en ai connu. Bon, c'est fini maintenant tout ça, je suis tout à fait d'accord, mais... C'est très gros. Le dragon à sept têtes, c'est vraiment très, très gros. D'ailleurs, un dragon, c'est gros. Hein. Alors, du coup, on fait une panthère. Une panthère, l'ours. Il parle comme le Christ. C'est beau, ça. Et je vais reprendre les sept idéologies athées autrement. C'est la même chose. Ça reste de l'évolutionnisme, ça reste du matérialisme dialectique, ça reste de la sincérité, ça reste de l'existentialiste, ça reste un espèce de pseudo-scientifisme. Oui, c'est vrai que dans le New Age, il y a quelque chose de pseudo-scientifique. Connotation un peu... Oui. C'est la même. Alors, quand on se prosterne devant le dragon, ils se prosternent tous devant le dragon, et cette fois-ci, ça devient religieux. Ça devient une religion du Christ, des paroles christiques, sans Dieu, des énergies. C'est une religion, ça devient une intériorité, une réalisation spirituelle et mystique. On l'adore. C'est extraordinaire, ça. C'est dit noir sur blanc. Hein. Vous avez vu, hein. Alors émerveillé, la terre tout entière suivit la bête. Ça s'est retourné, elle se retourne et elle retourne au vomissement. Voyez. C'est vraiment extraordinaire, sauf ceux qui sont emportés, hein, sauf ceux qui vivent de Marie et de Joseph et de la Sainte Famille. Sauf que ceux qui sont emportés dans le rapt du règne, sauf ceux-là. Oui. Alors, on se prosterna devant le dragon parce qu'il avait remis le pouvoir à la bête, et on se prosterna devant la bête en disant, mais qui égale la bête? Qui peut lutter contre elle? Qui peut lutter contre ça? Qui peut contredire ça? Qui peut dire que c'est faux? On lui donna de proférer des paroles d'orgueil et de blasphème. Le blasphème, ça veut dire Dieu n'existe pas. Hein? Blasphémer, c'est dire Dieu n'existe pas. On lui donne le pouvoir d'agir durant 42 mois, pendant 42 mois, à 1290 jours. Vous voyez, donc en fait, c'est différentes couches, vous savez. Il y a 7 couches de 1290 jours, vous avez vu? 7 couches. En même temps, il y aura ça, 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 en même temps, il y aura ça. Attends, c'est à croire que les 1290 jours, ils ont commencé, hein? Et non, parce que vous allez voir, il y a une autre couche qu'il n'y a pas encore. Eh oui, le mur, il est prêt quand il y a cette couche, elles y sont. Hein? Bon. Alors, elle se mit à proférer des blasphèmes contre Dieu, à blasphémer son nom. Le nom de Dieu. Blasphémer son nom. Blasphémer le nom de Dieu. Celui que Enoch avait prononcé. Yodev avait. Père, le Verbe et l'Esprit Saint, un seul Dieu. Et sa présence, la présence du nom, la présence vivante, te dire la grâce n'existe pas, la grâce sanctifiante, la La grâce sanctifiante n'existe pas. Je vous signale que Luther dit que la grâce sanctifiante n'existe pas. C'est-à-dire le lieu où il y a la présence vivante du Yod, du Père, du Verbe, et du Vav, l'Esprit Saint, dans l'unité vivante de la grâce. Et ça demeure. Et ça demeure. Le corps mystique du Christ. Et ça demeure. Le cœur de Jésus, la blessure du cœur. Ceux qui demeurent au ciel. On lui donna de mener campagne contre les saints et d'en venir à bout et de les vaincre. Donc le démon, là, ici, celui-là, va pouvoir vaincre même ceux qui sont en état de grâce. Tu es baptisé, tu vas à la messe, même peut-être quelquefois tu te confesses et tu es vaincu, séduit par l'Antichrist. Et on lui donne un pouvoir aussi sur toute race, peuple, langue, nation. Et ils l'adoreront tous les habitants de la terre. C'est pourquoi ? Parce qu'ils sont attachés à la terre. Si tu es attaché à la terre, tu as la grâce, tu es foutu, tu es dans les mains de l'Antichrist. Pendant ces 42 mois, hein, avant tu peux rester en état de grâce. Hein, on n'y est pas encore, donc ne vous inquiétez pas. Si vous êtes encore attaché à des choses terrestres, à une propriété privée, c'est pas grave. Vous pourrez vous en sortir encore, hein, c'est pas foutu, mais bon, quand je vous préviendrai, hein, dès que les 42 mois, j'aurai pas besoin de moi d'ailleurs. Le coup de trompette est tellement ton instrument que vous n'avez même pas besoin de moi pour le savoir que ça a commencé 42 mois. Voilà. Donc, et ils adorèrent tous les habitants de la terre dont le nom ne se trouve pas écrit dès l'origine du monde dans le livre de vie de l'agneau égorgé. Celui qui a des oreilles qui l'entendent. Ah, on retrouve ça la huitième fois. On avait entendu ça, les sept églises, celui qui a des oreilles qui entend. La huitième fois, la huitième église. L'église du Christ, la huitième église. C'est ça, l'église du Christ. Les chaînes pour qui doit être enchaîné par le diable. La mort par le glaive pour qui doit trouver cette mort par le glaive. Vous voyez, les chaînes d'esclavage pour celui qui doit être au diable, et la mort par le glaive, c'est-à-dire la mort vivante de Dieu, pour ceux qui sont transverbérés. Voilà ceux qui font de l'endurance et la confiance des saints. C'est l'un ou l'autre. Transverbération. Ou esclavage de Satan. Je vis alors surgir de la terre une autre bête. Elle avait deux cornes. Ah, voilà une autre bête, une troisième. Écoutez bien ça, hein. Parce que je voudrais arriver à la fin du chapitre 13. C'est incroyable. Mais elle parlait comme un dragon. Elle avait deux cornes comme un agneau et elle parlait comme un dragon. Ah, ben ça, elle ne parle plus comme le Christ, celle-là. C'est un agneau. Ah, comme un agneau. Ah, bah oui. Ah, bah tiens, il est comme un agneau, lui, celui-là. Et puis, deux cornes, comme le Verbe, avec la puissance, quelque part, de la parole. Ah oui ? Deux. En disant, il y a l'amour en plus, et puis douceur, hein. Mais il parlait comme un dragon. Tiens, il parle comme un dragon. Il parle comme le dragon. Ah, ah bon, très bien. Au service. C'est marrant, tous ces stratagèmes. Hein. Il y en a un, c'est le dragon, mais il parle comme le Christ. Et l'autre, c'est comme un agneau, et il parle comme un dragon. Au service de la première, et bien au service de la première bête. Oui, il n'y a aucun compromis possible. Pourtant, il a bien parlé, écoute. Je m'en fous. Au service de la première bête. Ah, mais il est pourtant gentil, je m'en fous. Il parle mal. Au service de la première bête, elle en établit partout le pouvoir, amenant la terre et ses habitants à adorer cette première bête dont la plaie mortelle fut guérie. Elle accomplit des prodiges étonnants jusqu'à faire descendre aux yeux de tous le feu du ciel sur la terre. Ça, c'est extraordinaire. Et par les prodiges, le pouvoir prodigieux qui lui a été donné d'accomplir au service de la bête, cette nouvelle bête fourvoie les habitants de la terre en leur conseillant de fabriquer une image en l'honneur de cette bête qui frappait du glaive à reprise. Tiens, voilà la sixième couche, tiens. Une image, tiens, l'image, mais l'image, attends, l'image, hein, fabriquer une image, avec du feu qui vient du ciel. Ah, je fabrique une image, ah, très bien, oui. Ah, une image avec, par un prodige étonnant qui fait tomber l'énergie, du feu, l'énergie du ciel, du monde céleste, tu fais tomber du feu et tu fabriques une image. Donc ça nourrit ton imaginaire. C'est du feu céleste, si vous voulez, mais pour nourrir l'image, l'imaginaire, le monde psychologique qui est en toi. Le monde psychologique n'est pas nourri de la substance, transubstantiation, mais dans une transubstantiation. Hein? On m'a dit ça l'autre jour. Il y a un prêtre qui a fait expliquer l'Eucharistie. Il a dit, voilà, transubstantiation, laissez tomber. Maintenant, dites transubstantiation, parce que c'est sous le pain que Jésus est présent. Mais non, Jésus n'est pas présent sous le pain. C'est une transubstantiation. C'est pas dessous. C'est lui. C'est une image, vous comprenez, l'Eucharistie, c'est une image. C'est une image. Transubstantiation en dessous. En dessous de l'esprit, en dessous de la vie contemplative, en dessous de la foi, il y a l'imagination, il y a le psychisme, il y a le psychologique. Vous voyez ? L'image, notre vie psychologique se nourrit d'images. L'imaginaire se nourrit d'images. Qu'on fait un cauchemar, c'est des images. Mais quand le religieux se nourrira d'images, ça devient métapsychique. Vous voyez ? Parce que quand l'image se nourrit du monde sacré, quand l'image devient sacrée, vous voyez, quand votre vie intérieure surabonde à l'infini de quelque chose de complètement sacré, sacré par l'imaginaire, dans le psychisme déborde, 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 et devient métapsychique. C'est ça le métapsychique. C'est pas spirituel. C'est pas l'adoration. L'adoration, il n'y a pas d'imagination dans l'adoration. Il n'y a pas d'image dans la contemplation. Il y a le mystère qu'on voit, on le voit, mais il n'y a aucune image. C'est pas psychologique. Vous voyez ? Le monde métapsychique apparaît là. Oh, comme c'est beau, ça que c'est bien dit. Oh ! Fabriquer une image en l'honneur de cette bête qui frappait de grève a repris vie, et on lui donna même de pouvoir donner vie, d'animer cette image de la bête pour la faire parler. Il y a même des messages. Oh ! Donc maintenant, attention au message, hein. Et de faire en sorte que soient mis à mort tous ceux qui n'adoreraient pas l'image de la bête. Ah oui, si tu crois pas à mes messages, eh ben tu iras en enfer. J'en connais, hein. Par ces manœuvres, tous, petits et grands, riches ou pauvres, libres ou esclaves, se feront marquer sur la droite ou sur le front, et nul ne pourra rien acheter ni vendre s'il n'est marqué au nom de la bête ou au chiffre de son nom. C'est ici qu'il faut de la finesse, que l'homme doué de l'esprit, d'intelligence, calcule le chiffre de la bête. C'est un chiffre d'homme. Son chiffre, c'est 6. Bien sûr, on peut prendre les interprétations. Ah, ce sera à l'époque où avec l'énergie venant du ciel, les ondes, tout ça, on fabriquera une image, la télé, hein, et puis on donnera animation à cette image, la télé va s'animer, et l'image va parler dans toutes les maisons, et tous, petits, grands, les femmes, les hommes, les esclaves, tous auront la télévision, et puis à l'intérieur de leur maison, et ils vont devoir adorer l'image de la bête. Interprétation très 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 vraie. Mais c'est une tout autre chose que l'interprétation de l'Apocalypse, parce que l'Apocalypse ne peut pas s'interpréter comme ça, vous comprenez bien. Bien sûr, ça fait partie de l'Apocalypse, de dire ce sera à l'époque de la télévision. Mais c'est trop matériel, ça. Ce qui est spirituel, ce qui est divin, dans cette révélation de l'image de la bête, c'est quoi ? C'est que on va se trouver devant une mystique, se présenter de faire une seule religion pour toute la Terre, qui serait une mystique de l'image du Christ, de la réalisation métapsychique. Vous voyez ? Parce que la réalisation métapsychique, elle se nourrit de l'imaginaire. Le monde psychique se nourrit de la mémoire, de l'imagination, du sens commun et de la cogitative. C'est ce que nous avons en commun avec les animaux. ce sont ces puissances de vie intérieure-là qui seront mobilisées par la séduction du serpent, du dragon et de la bête panthère. Ouais. Ils sont mobilisés, et puis des hommes, ça, ils vont conseiller aux hommes de fabriquer cette image. Donc, la fabrication d'une mystique, la fabrication, et le réseau HARP rentre dans la... Tout rentre dans le processus, vous voyez. Pour rendre... faire que les gens deviennent mystiques. Mais une mystique de lumière, de beauté, de tolérance, de... Enfin, les sept erreurs, quoi. Vous voyez ? Et du respect de la vie comme étant quelque chose de ce qu'il y a de plus sacré, etc. Vous voyez ? Mais à partir donc du sens commun, d'un cogitatif, de la mémoire sensitive et de l'imagination. Mais le cœur spirituel, l'intellect agent de la vie contemplative et l'innocence divine originelle de la liberté incarnée n'existe pas. Pour vivre dans ces trois puissances de vie spirituelle, de la lumière surnaturelle de la foi, des torrents de la grâce sanctifiante, le nom de Dieu est blasphémé. Et enfin de la liberté elle-même, vous voyez, de la liberté spirituelle elle-même, de l'innocence divine, puisque c'est l'engendrement qui est écarté, l'origine et la fin. Donc vous voyez, une fois qu'on a écarté ces trois, qui sont les trois dernière couche qu'on vient de lire, il ne reste plus comme puissance de vie intérieure que l'imaginaire, le psychisme, la sincérité, le ressenti, la cogitative, le paranormal. C'est tout. Ce qu'on a en contact avec l'animal. Donc on sera un animal religieux. Pour le coup, ce sera vrai. On sera un animal religieux. Mais on ne sera pas un homme religieux. Vous comprenez ? Donc ceux qui tombent là-dedans, ceux qui vont tomber là-dedans, ils tombent vraiment dans l'image. C'est le monde céleste qui fait tout passer par le... qui suractive l'imaginaire pour faire suractiver une vie intérieure très 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 intense. Mais indépendamment de la vie spirituelle, de notre intelligence contemplative, de notre liberté d'adoration et de notre cœur d'amour, d'extase et de donation de vie. Et de ravissement. En dehors du ravissement, de l'amour, du cœur spirituel. Et évidemment, en dehors du corps spirituel, mais ça c'est lié à l'adoration. Celui qui ne pourra pas voir en lui, parce qu'il n'a pas les deux ailes du grand aigle, l'adoration et la contemplation, il n'adore pas, il ne pourra pas voir du dedans de lui, dans la Sainte Famille Glorieuse, la mise en place du corps spirituel. C'est impossible, évidemment. Donc, pour échapper aux trois bêtes, et on va voir qu'après, il y a encore d'autres bêtes. La bête de la mer, la bête de la terre. Et c'est le corps spirituel. Et c'est l'esprit humain dans la grâce du nom de Dieu. Et dans la Sainte Famille Glorieuse. Ça fait les trois. Et de l'autre côté, si vous n'avez pas ça, c'est l'image. Alors vous êtes marqué. Vous pensez comme l'Antichrist, 666 sur le front, ça veut dire vous pensez, sur la tête, ça veut dire vous pensez comme l'Antichrist, et 666 sur la main, ça veut dire vous agissez comme l'Antichrist. Et personne ne pourra rien acheter ni vendre. C'est vrai qu'à l'époque de l'Antichrist, personne ne pourra acheter ni vendre sans avoir le microchip, le mesh block, ou l'implant bioélectronique, si vous savez. Ça c'est vrai, c'est pas l'interprétation principale, vous comprenez. Mais c'est vrai aussi. C'est très très loin d'être l'interprétation principale. Bien sûr qu'il faudra refuser à tout prix de recevoir l'implant bioélectronique avec 666 dedans. Alors c'est vrai mais c'est ça qui est difficile avec le livre de l'Apocalypse, c'est que nous aujourd'hui on est très handicapés parce que on voit la réalisation matérielle là sous nos yeux arriver. Et du coup, on est tenté de s'arrêter là. Alors que, jusqu'à maintenant, dans l'Apocalypse, justement, on était dans l'interprétation essentielle. Vous voyez ? Terminale, finale, surnaturelle. Et on n'était pas arrêté par ces histoires d'implants, tout ça, comme aujourd'hui, vous voyez, ou de télévision. C'est pour ça qu'avec l'Apocalypse, il faut faire attention. C'est le corps mystique de Jésus, et ça vient du ciel. Donc on est en dehors, effectivement, et on comprend la différence entre le monde spirituel et le monde des énergies, le monde métapsychique. Les anges du ciel ont chassé les démons. Ils sont tous venus dans notre univers, les démons. Et donc leur seul but, c'est de coopérer avec tous les éléments de vie et de matière qui sont sur la Terre pour produire à l'intérieur des petits de l'homme le blasphème. Et ce blasphème, c'est de sortir de l'image et ressemblance de Dieu tout en ayant l'impression d'être entièrement divinisé dans l'amour de Dieu. C'est métapsychique, si vous voulez. Et pour ça, il faut vraiment couper toute liberté intellectuelle. Il faut que les gens deviennent bêtes. C'est très important pour le démon. Que les gens deviennent stupides. C'est, on dit bien, pourquoi la bête? Abêtissement. Et c'est vrai que la télévision joue un rôle très important. Il n'y a aucune recherche de la vérité. C'est la télévision qui l'a dit. Ah oui, mais si c'est pas la vérité. Ah, ça fait rien, c'est la télévision qui l'a dit. Ah bah, Patrick Poivre n'a pas dit ça. Ah bah oui, mais... Vous sentez... C'est l'abêtissement. Ça, c'est... Du coup, l'intelligence ne peut plus atteindre le mystère de Dieu. Ou chercher la vérité, ou recevoir le verbe de Dieu. Et pour la paternité, c'est pareil. Si je coupe tous les champs morphogénétiques avec la loi d'abomination, et on peut revenir à notre introduction, c'est que Daniel a dit, ça commence lorsque on s'attaque aux champs morphogénétiques de l'origine par le clonage. Voilà. Si vous voulez résumer de Daniel, c'est ça, du prophète Daniel. Quand il y a l'abomination de la désolation, tac, chronomètre, ça commence. Pourquoi? Parce que tous les champs morphogénétiques de l'humanité vont être bloqués, anéantis. Métapsychiquement, c'est une technique extraordinaire. C'est une technique... C'est pas pour faire des clones. Ils en ont rien à cirer de faire des clones. C'est uniquement pour briser à l'intérieur de la vie intérieure de tous les êtres humains, tous les champs morphogénétiques et collectifs de l'humanité, pour sortir, j'allais dire, de leur ego et rentrer dans l'adoration. C'est strictement impossible quand il y aura cette espèce de chakra originel qui sera brisé. Le démon pourra rentrer dans l'innocence divine originelle de chacun d'entre nous. C'est le seul but du clonage. Il n'y a pas d'autre but du clonage du côté de l'humanité. L'autre but, c'est de donner une grande gifle au Créateur. Directement. Mais le démon ne ferait pas ça s'il n'avait pas un résultat très important. Et ce résultat très important, c'est précisément qu'il ne puisse plus y avoir possibilité d'adoration. Donc c'est pour ça que l'abomination de la désolation, c'est très important pour le démon, pour le dragon, pour la panthère. Très très important. Très important. Et enfin, pour l'amour spirituel, comment peux-tu aimer quelqu'un que tu ne vois pas? Que tu ne comprends pas, que tu ne cherches pas. Donc le problème est résolu pour l'affectivité. Les gens vont aimer, ne vous inquiétez pas. Ils vont avoir beaucoup d'amour, mais ce ne sera pas spirituel. Donc c'est gagné. Ce sera un amour métapsychique, romantique, sentimental, sincère. Mais il ne sera pas vrai, il ne sera pas divin, il ne sera pas chrétien, il ne sera pas éternel, il sera diabolique. Il faut l'adapter. L'Apocalypse montre ça, vous voyez, que l'enjeu, il est là, dans la contemplation et l'adoration. Voilà l'enjeu. Et maintenant, la protection mise en place du corps spirituel. Et maintenant, le signe, l'infaillibilité, les deux témoins, la conversion d'Israël, l'Eucharistie, Marie et Joseph. On l'a vu ça, les cinq signes, les cinq repères. Voilà. Et donc on a brossé comme ça ensemble, vous voyez, les sept signes. Et du coup, on va pouvoir rentrer dans les sept coupes. Comment, au milieu de tout ça, la miséricorde de Dieu va opérer les sept coupes. Grâce à ceux qui sont restés fidèles. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes. Je suis le fruit de vos entrailles, béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen.